On va essayer de chercher assez de chaises pour que vous puissiez être... Entre-temps qu'on essaye de chercher les chaises, c'est seulement deux mots d'introduction de ma part pour que les intervenants et les orateurs puissent vous distiller toutes les certitudes dont ils sont capables en s'inventant tant. C'est une démarche à la fois basée sur l'excellence assez large. D'une part, j'en suis triste pour vous. D'autre part, je m'en réjouis parce que ça démontre...
Merci pour l'introduction. Bonjour tout le monde. Merci de me sacrifier votre heure de nuit. Si on parle d'un sujet aussi controversé que sont les hautes fréquences ou le Wi-Fi, c'est sûr qu'il y aura des propos qui ne vont peut-être pas plaire à tout le monde, mais je crois qu'il est important.
Ça, ce n'est pas la haute fréquence. Là, ce sont nos collègues, si je reconnais bien la voix, de Luxembourg. Luxembourg?
One point.
OK, on repart. Mais je crois qu'il est donc très important d'éclaircir un peu la problématique.
Ils doivent couper leur micro. Oui. Est-ce que vous m'entendez au Luxembourg? C'est bien Luxembourg qui se cache derrière l'écran? Allô? Ouais. Oui. Vous devez couper les microphones parce que sinon ça ne va pas être gérable. Vous m'entendez là? Ah, vous êtes in Istres, okay. It was not easy for me to understand and to guess where you are. But if you can switch off the micro. Okay? Can you hear me now? Okay, that's good. So we can start. And I hope that is the last time that we start. So, Ralph?
Voilà, troisième essai. Ce sera le bon, je pense. Donc, c'est important d'éclaircir un peu la problématique sous tous les angles, d'autant plus que, vous le voyez, selon l'Eurobaromètre, il y a quand même, d'après une enquête qui a été faite il y a quelques années à travers l'Europe et qui a été répétée ensuite, les populations sont méfiantes par rapport à ces nouvelles technologies et ne font pas toujours confiance aux autorités publiques. Pour nous situer un petit peu dans la haute fréquence, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de champs électromagnétiques, effectivement, qui sont des ondes et qui sont dans une certaine fréquence, dans une certaine bande de fréquence. Pour le Wi-Fi, c'est de l'ordre de 2,4 GHz ou 2400 MHz. Il y a d'autres types de haute fréquence qu'on utilise, que vous connaissez tous, c'est la téléphonie mobile, c'est-à-dire le GSM sur différentes fréquences, mais aussi le téléphone sans fil qu'on a chez soi, qui n'est pas le GSM, mais qui est le DECT, D-E-C-T. Il y a l'UMTS, qui est une troisième génération de téléphonie mobile. Il y a ensuite le Wi-Fi, il y a les radars, il y a la télévision radio mobile qui de plus en plus se mettent sur ces bandes. Et toutes ces bandes ont quelque chose en commun, c'est qu'il y a une modulation, c'est-à-dire qu'on ne parle plus d'une onde continue comme dans le temps. Ça représente en fait ce que vous voyez là à l'image, c'est une onde continue, telle qu'on connaissait la radio ou la télévision dans les années 50 voire 60. C'est-à-dire qu'il y avait une onde qui émettait en continu et qui était porteuse de l'information. À ce moment, lorsqu'on mesurait au niveau une intensité plus ou moins identique à travers le temps. La modulation qu'on a découvert avec la mobilophonie, ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on va, l'information va être comprimée. Si je parle de la voix, ça va me donner la voix Mickey Mouse. C'est sous cette forme-là que c'est transporté via cette onde porteuse de haute fréquence. Et de l'autre côté, c'est décomprimé, ce qui me redonne ma voix originale. Ce que vous voyez ici, c'est le schéma lorsqu'il y a une personne qui téléphone, qui utilise un GSM. Donc, il y a un pic qui revient tout à fait régulièrement. En fait, il y a 8 slots, 8 possibilités. On peut être à 8 utilisateurs différents, chacun téléphonant chez lui. Donc ici, vous avez le schéma pour un utilisateur, prochain, c'est lorsqu'il y a deux utilisateurs, sinon quatre utilisateurs, et donc au maximum huit utilisateurs qui vont en fait se partager une ligne téléphonique, si j'ose dire. Les physiciens entre vous m'excuseront, mais j'essaie de vulgariser un petit peu parce que sinon ça devient très très complexe. Mais ce qui est nouveau, c'est donc cette pulsation qui est tout à fait régulière. Et en fait, il faut savoir que beaucoup d'appareils de mesurage, ils font une moyenne sur un laps de temps, c'est-à-dire avec un pic et sept fois rien, comme dans le premier cas de figure. En fait, on aurait une moyenne qui serait bien sûr beaucoup plus basse, qui résulte, mais qui est raccourci en temps. La même chose ici, vous avez le Wi-Fi et vous avez donc un mesurage et vous voyez ce pic régulier qui revient. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau, qui a vu son origine à la fin des années 80, voire début des années 90, mais qui a vraiment vu son explosion fin des années 60, 90, début des années 2000. Comme le montre ce schéma-ci, donc le premier à votre gauche, c'est le GSM en Allemagne. Et vous voyez vraiment que la courbe, que ce soit le nombre d'utilisateurs, mais aussi l'utilisation en tant que telle, n'a fait que vraiment exploser ou démarrer de façon explosive autour des années 2000. En Suède, on voit le même schéma. En bas, vous voyez les prévisions selon l'ANSES, qui est l'Association nationale environnement sécurité en France. Et ce que vous voyez, c'est la prévision pour les années à venir. Et ce qui est très intéressant, c'est la toute petite partie en violet en bas. Ça, c'est en fait le message vocal, c'est-à-dire l'utilisation du GSM pour téléphoner. Toutes les autres applications en rouge et en jaune, c'est celles qui sont vraiment en train d'exploser et qui vont. On est au début de cette explosion, en fait. Ce sont des transferts de données, de dates. Donc, je dis en rigolant aujourd'hui. Mon téléphone portable, il sert encore aussi, ce qui pour la plupart des jeunes n'est plus le cas. Si on fait un retour donc au Wi-Fi, vous voyez ici l'historique des différentes technologies sans fil qui font partie du Wi-Fi. En fait, on a des standards. Vous avez à votre gauche les standards et à droite l'année de ratification. Et vous voyez qu'on est dans un changement perpétuel. C'est-à-dire, ça démarre fin des années 90, mais il y a d'année en année, pour ne pas dire de mois en mois, de nouveaux standards qui font leur apparition. C'est-à-dire que même si on parle de Wi-Fi, il est impossible de comparer un Wi-Fi il y a 10 ans avec un Wi-Fi dans 5 ans. Il y a un remaniement, une évolution, une dynamique énorme là-dedans, ce qui fait, si on veut voir les effets à long terme, ce qui rend une vision à long terme absolument impossible, voire hypothéquée. Ce qui m'amène aux études scientifiques qui peuvent être faites. Et là, je pourrais énoncer pendant des heures et des heures des études qui vont dans un sens, qui vont dans l'autre sens, vous épargner cela. En fait, il faut savoir une étude scientifique. Il y a différents types d'études scientifiques. On peut faire des études in vitro, c'est-à-dire sur des cultures, sur des cellules. On peut les faire en expérience animale, in vivo. On peut les faire en épidémiologie, c'est-à-dire sur l'homme. Et là encore, il y a des cohortes ou encore des case studies. On verra tout de suite. Il faut savoir que toutes ces études peuvent nous donner des informations, mais sont quelque part restrictives ou limitées dans leur information. Je prends les cellules ou les expériences sur culture ou sur cellules. C'est sûr que je peux très bien retracer un effet biologique qui va apparaître très rapidement, mais de là à l'extrapolation, pardon, à un être vivant, voire l'homme, qui est quand même un être beaucoup plus complexe biologiquement qu'un simple amas de cellules. Il y a des effets de réparation, il y a des interactions cellulaires. Donc, à partir d'une cellule, d'une culture de cellules, retracer des maladies complexes comme les maladies neurodégénératives sont même très hypothéquées. Si je prends in vivo les expériences animales, il y a des rats, il y a des souris, il y a des cobayes. Il faut savoir que tous ces animaux sont relativement limités en espérance de vie. Ça oscille entre 18 mois, voire 5 ans. Pour étudier des effets à long terme sur des années, voire des décennies, on est mal barré via les études animales. En études épidémiologiques, on a les cohortes, c'est-à-dire qu'on compare deux types de populations, les uns qui sont exposés, les autres qui ne sont pas exposés. Plus difficile aujourd'hui de retrouver les témoins, ceux qui ne sont pas exposés, puisque l'exposé utilise Wi-Fi, mais c'est encore une exposition passive, d'antennes qui se trouvent de partout, les access points en Wi-Fi, etc. Donc, retrouver vraiment des populations sans témoins, sans exposition, faudrait partir dans la brousse en Australie et encore. Donc, ça devient difficile. Ensuite, il y a les case studies, c'est-à-dire qu'on retrace l'exposition après coup. En d'autres termes, on a une population qui a une certaine maladie ou un certain à l'exposition. Et à partir de ces personnes malades, je prends par exemple le cancer du cerveau, on va retracer l'exposition qu'ont subi ces gens avant. Combien est-ce qu'ils ont téléphoné, avec quand est-ce qu'ils ont commencé, etc. Et là, vous voyez déjà à quel point ça devient difficile avec des effets qui font leur apparition au bout de 10 ans, voire de 20 ans, de retracer. Il y a toujours une certaine subjectivité. Si je demande ici qui a téléphoné beaucoup il y a 10 ans et qui a téléphoné peu il y a 10 ans, vous aurez certainement leur Wi-Fi de la même façon. L'un répondra: moi, j'étais modéré, et l'autre a dit: ah non, j'ai exagéré. Ensuite, il y a des technologies récentes qui font leur apparition. L'UMT, un nouveau règlement par le gouvernement en automne pour installer des ambulances militaires, etc. Donc, il y a une confluence de nouvelles technologies, de nouvelles bandes de fréquences, une cumulation dans notre GSM. Ensuite, on ajoutait le laptop et le Wi-Fi sur le laptop. Sont venus ensuite les smartphones, maintenant c'est les tablettes et demain, ce qui fait que les données qu'on a pu acquérir il y a 5 ans ou 10 ans ne sont plus valables par rapport à l'exposition qu'on a aujourd'hui. Et si on parle des effets à long terme, je vous rappelle un cancer, un Alzheimer, ça prend des années, voire des années à se développer. Si on compare à l'amiante, où on sait que le temps de latence est de 30 à... Voilà. D'autres limites, et là je cite un très grand document qui est sorti fin de l'année passée, qui est l'avis provisoire du SCENIR, qui est le comité scientifique de la commission qui établit un bilan scientifique des nouveaux risques. En fait, donc, comme je viens de le dire, l'exposition est difficile à mesurer, les applications, les fréquences, le cumul, etc. Ensuite, il y a une publication où la publication se fait sélectivement les publications de résultats. Des grandes études ont plus de chances de passer que des petites études. D'autre part, les études qui sont publiées généralement, c'est les études qui confirment l'hypothèse qu'on a émise. Donc, si les résultats d'une étude confirment l'hypothèse, la chance d'être publiée va être plus grande. Les outils statistiques qu'on applique sont arbitraires. On a pour décerner si une étude est statistiquement significative ou pas, on parle d'une marge d'erreur de l'ordre de 5%, le fameux P0,05, ce qui veut me dire moins de 5% de mes résultats peuvent être faux ou peuvent s'écarter de mon hypothèse initiale. Il faut dire que c'est 5%. Et ça, c'est un argument très, très important dans toutes les études qui ont été évaluées pour dire oui, il y a un effet, mais il n'est statistiquement pas significatif. Parce que cette probabilité de 5%, elle est dépassée. En fait, cette probabilité de 5%, elle est complètement arbitraire. Il y a un sens scientifique qui nous dit qu'il faut prendre 5% au lieu de 4 ou de 3,2 ou 6,7. Et ça, il faut toujours se garder à la tête. C'est statistiquement significatif, critère arbitraire et non pas scientifique. Et ensuite, ce pouvoir statistique dépend bien sûr de la taille de l'échantillon. Plus mon échantillon est grand, plus avec le même résultat, on va passer dans quelque chose de statistiquement significatif. Un échantillon plus petit, je vais vous montrer un exemple théorique là-dessus. Voici les études qui ont mis en évidence un risque ou non de gliome. C'est une tumeur bénéfique du cerveau. Et en fait, vous voyez toutes les études, donc tous les points qui sont dans cette partie rose en bas, concluent à une absence pour un gliome. Toutes celles qui partent vers le jaune indiquent que l'utilisation du GSM pourrait effectivement être une cause ou avoir un effet sur les gliomes. Toutes celles à droite, il n'y en a pas, voudrait dire un effet protectif. Plus il faut, plus on téléphone, moins on aurait un risque. Il n'y a pas d'études qui nous disent ça, heureusement. Toutes celles qui partent vers la gauche, dans la partie jaune croissante, indiquent qu'il pourrait effectivement avoir un risque de développer un gliome si l'exposition est élevée. Si on regarde un peu l'origine de ces études, vous voyez celles qui sont en rouge, c'est celles commandées par l'industrie. Celles qui sont en bleu, elles sont indépendantes.
Et vous ne les voyez pas non plus maintenant? Non, ici, d'accord. Ça, je vois. Ça, je vois. Mais dans les autres sites, vous ne les voyez pas non plus. Et maintenant, vous les voyez?
On reprend. Donc, vous voyez déjà les contraintes de la technologie dans tous les domaines. Donc, pour revenir aux statistiquement significatives, je vous ai donné ici un exemple tout à fait théorique, donc avec des chiffres choisis au hasard. Vous avez en fait, dans cette étude hypothétique, avec quelques 400 personnes où on a regardé les fumeurs atteints d'un cancer du poumon par rapport aux non-fumeurs qui n'ont pas développé de cancer de poumon. On fait un test statistique qui s'appelle un odds ratio. En fait, cet odds ratio, il vous donne une valeur, ici dans ce cas 1,16, ce qui voudrait dire qu'on a une chance ou une probabilité de développer un cancer du poumon de l'ordre de 16% de plus que quelqu'un qui n'est pas fumeur. Donc, un fumeur aurait un risque de l'ordre de 16%. C'est un chiffre tout à fait arbitraire, hypothétique que j'ai choisi. Si on prend cette probabilité de 5% de marge d'erreur, on arrive ici à un P de 0,45, donc avec une probabilité d'erreur de 45%. Donc statistiquement, une telle étude ne serait pas significative, on ne la considérera pas. Si on fait la même étude avec 4 260, donc 10 fois plus de personnes, avec exactement les mêmes résultats, on serait toujours à une probabilité accrue de 16%, mais à cette fois-ci, elle serait statistiquement significative, étant donné que ma probabilité diminuerait et serait plus que de 1,6%. C'est-à-dire qu'au niveau des résultats de l'analyse de cette étude, on a strictement le même résultat, mais étant donné que les effectifs sont plus restreints, on ne sera pas statistiquement significatif. Et avec les études qui se font actuellement, ou toutes les études qui sont analysées, c'est très souvent au niveau de ces statistiquement significatifs que ça se joue. Si je prends les études Interphone, ce qui est une très grande étude européenne sur les gliomes et d'autres tumeurs du cerveau, de l'oreille interne, voire des glandes salivaires. En fait, les résultats, ça a été mené dans 13 pays différents. Les résultats sont contradictoires. Dans certains pays, effectivement, il semble y avoir un effet, mais à cause de la rareté du gliome, qui est une tumeur assez rare, on n'aura jamais des chiffres assez élevés pour être statistiquement significatif. Donc, c'est très souvent là-dessus que ça joue. Si je reviens au Wi-Fi, en fait, et je prends au hasard l'exposition. Si je prends toutes les études qui ont été concertées, en fait, ce rapport de Skenir qui a été sorti en. Il a étudié toutes les études qui sont apparues entre 2009 et 2012, voire 2013, et qui ont tenu par rapport au comité. En fait, ils ont considéré en tout 11 effets potentiels, donc des effets tout à fait divergents, on va les retrouver. Ils ont concerté en tout 108 études, et sur ces 108 études, il y en a 4 qui ont été faites sur le Wi-Fi. D'autant dire, et je pourrais dès lors tirer ma conclusion, on n'en sait aujourd'hui pas très grand-chose. Avec 4 études, impossible d'avoir un recul suffisant. Donc le point actuel, Où en sommes-nous? Quel est l'état actuel des connaissances? Et comme j'ai dit, je ne vais pas entrer dans le détail des études et vous énoncer étude par étude. En fait, je vais me concentrer à deux rapports qui ont été émis fin de l'année passée. Le premier du comité scientifique SCENIR, donc, et le deuxième de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de la santé de l'environnement en France. En fait, ces deux rapports ont fait la même chose, évaluer toutes les études sérieuses. Faut clarifier le terme de sérieux, mais ils ont donc analysé et retenu toutes les études scientifiquement sérieuses qui sont apparues entre 2009 voire 2013. Au niveau de l'ANSES, donc des Français, ils ont par rapport au, ils ont fait deux types, ils ont différencié dans deux types de d'études, celles sur l'homme et celles sur des modèles. Ils ont reconnu avoir des effets, du moins limités, ou une preuve, une preuve limitée d'évidence d'effets sur les fonctions cognitives, notamment chez les enfants, sur le sommeil et sur la fertilité masculine. Et encore, il faut dire sur le sommeil, on sait aujourd'hui très bien l'électroencéphalogramme. Donc l'activité mesurable du cerveau est altérée. C'est un effet biologique. La question qui se pose derrière, est-ce que ça a un effet sur la santé? Maintenant, le fait de bronzer ne rend pas nécessairement malade. Si la dose est cancer de la peau, là c'est une pathologie. Mais l'effet biologique et la pathologie, la maladie, sont encore deux choses différentes. Donc au niveau sommeil, c'est un effet biologique. La question ou la discussion est malade ou pas. Si on regarde les études un peu plus dans le détail, vous avez ici, et on ne va pas passer dans le détail étant donné que vous avez les slides à votre disposition, on a des effets dans toutes les gammes, des effets neurologiques, cognitifs, sur le sommeil, les fonctions auditives, neurodégénératives, voire effets cancérigènes. Pour faciliter un petit peu, toutes les études qui sont en bleu sont des études sur des cultures, donc sur des cellules. Tout ce qui est en noir, ce sont des expériences in vivo, donc sur les animaux. Si je prends par exemple les effets sur la fertilité mâle, ce sont des spermatozoïdes de rats qui ont été analysés. Et tout ce qui est en rouge, ce sont des études épidémiologiques, donc des effets qu'on a constatés sur l'homme. Et on voit par exemple une augmentation de la probabilité de développer une sclérose en plaques pour les femmes. Si l'exposition, si elles ont utilisé leur GSM sur plus de 10 années, on voit une augmentation de la prédisposition des crises d'épilepsie chez les patients, c'est-à-dire c'est pas la crise en tant que telle qui va être déclenchée, mais la prédisposition va être accrue. On voit aussi un effet sur les acouphènes, donc le sifflement dans l'oreille. Et là, c'est l'utilisation de GSM sur plus de 4 années. Ça double en fait le risque. Et là, vous voyez, si on regarde le chiffre, donc 95% de risque accru, avec une statistiquement significative de toute justesse. Vous voyez qu'on part de 1 à 0. Donc si c'était 0,9, on dirait pratiquement ce n'est pas significatif. L'explication pourquoi ce résultat est à la limite d'être statistiquement significative, c'est qu'on a fait cette étude sur 33 personnes seulement. Donc si on l'avait fait sur 330 personnes avec les mêmes résultats au niveau de la signification statistique, ça serait différent. Le stress oxydatif, là encore, vous voyez notamment en étude animale, voire en culture, des effets, ce qui, pour autant, sur tous ces symptômes que je viens de décrire, la preuve, selon l'ANSES, pour l'instant, après consultation de toutes les études, est insuffisante. Ils ne peuvent pas tirer une conclusion définitive. Vous voyez, prochaine diapo, s'il vous plaît. Vous voyez ici toutes les études sur le stress oxydatif qui ont été retenues par l'ANSES, 23 études. 13 ont été jugées de qualité suffisante, donc 10 sont déjà passées vers les mailles. Sur ces 10, il y en a 4 que vous avez entouré en vert qui ne montre pas d'effet. Vous en avez 9 qui suggèrent des effets, qui sont entourés en rouge. Parmi ceux-là, vous en avez même quelques-unes, 3 qui montrent un effet protectif. Donc, téléphoner protégerait du stress oxydatif, qui là encore est un effet biologique bien sûr, mais voyez au niveau des résultats des analyses, c'est contradictoire. Et si on a un tel résultat contradictoire au niveau scientifique, on doit conclure que, le résultat, que la preuve n'est pas apportée au niveau scientifique. Dans la prochaine donc, diapo que vous voyez, ce sont les résultats des analyses donc, de l'opinion préliminaire du SCANIR. En fait, vous voyez différents effets, les effets génotoxiques par exemple. Il y a 26 études qui ont été faites, 15 ne montrent pas d'effets et 11 montrent des effets. Donc là, on est mitigé, il y a des études qui sont en partie contradictoires. Donc tirer des conclusions définitives, c'est sûr que tout simplement trop tôt pour en tirer des conclusions. Et en plus, sur ces effets génotoxiques, il y en a une seule des études qui a été faite sur le Wi-Fi, qui a donc utilisé les fréquences typiques du Wi-Fi. Une seule étude qui, elle, a montré des effets. Vous avez donc en tout quatre études sur le Wi-Fi qui ont toutes été positives, donc qui ont montré des effets. Une sur les effets génotoxiques, une sur la mort cellulaire, une sur l'expression des gènes et des protéines, et une autre sur le potentiel du cerveau, voire les électroencéphalogrammes. Mais donc très peu d'informations quant au Wi-Fi. Pour le reste, 55 études, si je prends toutes les fréquences, les hautes fréquences, du lait ensemble, c'est un kiff-kiff, 50% d'études qui n'en montrent pas d'effet pour 50% d'études qui montrent effet potentiel. Donc on est à un match nul pour l'instant. Un exemple sur les effets neurodégénératifs. Dans le rapport SCANIR, il y a eu deux études qui ont été évaluées. L'une a montré une augmentation significative d'un marqueur biologique du dommage du système nerveux central. L'autre, il a montré au contraire un effet protectif pour l'Alzheimer. Donc des études, on ne peut pas plus contradictoires. La conclusion scientifique des résultats qui sont contradictoires est née la nécessité d'études additionnelles. Toutes les pages que je vous ai marquées dans...
Excuse-moi, j'ai une petite question ici, une toute petite question. Sur toutes ces études, est-ce qu'ils sont tous de sources indépendantes? C'est pas un calculé là.
Ça ne ressort pas du rapport du SCANIR. Donc, on a un listing de toutes les études. Maintenant, qui est... Ah, c'est la question de voir si vous voyez que certaines études, comme je vous ai montré pour l'ANSES avec le stress oxydatif, sur 23 études, il y en a 13 qui ont été retenues et 10 qui n'ont pas été retenues. Faudrait encore qui serait pertinente, mais qui ressort pas des documents ni de l'ANSES ni du comité. Ça ne re... Je sais pas si les membres des comités le savent, mais pour ceux qui peuvent consulter les documents. Malheureusement pour cette question, parce que ce serait effectivement très intéressant de savoir. Si je reviens donc au SCANIR, je vous ai retracé dans les deux slides qui vont venir les effets tels qu'ils les ont retenus. Donc, pas d'effet génotoxique in vitro tout d'abord en culture, pas d'effet génotoxique. Cependant, dans quelques études, des cassures de brins DNA, donc les chromosomes qui sont comme bien cassés dans certaines études. In vivo en animaux, une grande évidence pour l'absence d'effet. Grande évidence pour l'absence. On passe à la pause. Ok, on essaie de continuer un petit peu jusqu'à la prochaine récréation. Chez l'homme, donc les études chez l'homme, c'est beaucoup plus controversé. Les activités cérébrales, je cite, peuvent être affectées. Des comportements tels que maux de tête, vertiges ou fatigue, des problèmes neurologiques, pas d'induction, pas d'effet pour les maladies neurologiques. Apparemment, une faible évidence pour les comportements, que ce soit chez les enfants ou les adultes, ça rejoint les fonctions cognitives de l'ANSES. Une pauvre qualité pour les effets sur la fertilité mâle, donc pas pauvre qualité des spermatozoïdes, mais pauvre qualité des effets. Donc, malgré les études qui existent et qui ont, pour l'ANSES, quand même apporté à des preuves limitées, ici on parle de pauvre qualité. Et puis au niveau des gliomes et autres tumeurs dans la région cérébrale, pas de façon donc les résultats n'indiquent pas de façon claire. Pour moi, ce sont des, si j'ose critiquer, ce sont quand même manque de consistance, pauvre qualité, pas de façon claire. Pour moi, ce n'est pas vraiment des affirmations qui me rassure ou au contraire qui m'alarme. C'est un peu, c'est ni noir sur blanc, c'est assez grisâtre quand même. Donc, si je fais un peu la différence entre les études qui ont été retenues entre l'ANSES, les Français et les SCEC, il faut savoir que l'ANSES a retenu 5 études, alors qu'a priori, ils ont évalué les mêmes études. Néanmoins, il y a une différence. L'ANSES a retenu 5 études, celles que vous voyez en noir-gras, plus la bleue. L'ESKENIR a retenu 10 études, qui sont les noir-gras, plus les rouges. Vous voyez donc 4 études qui ont été retenues par les deux comités, une supplémentaire par les Français, et puis 6 autres par l'ESKENIR. Donc pour 2 études, pour 2 comités ou pour 2 évaluations qui se veulent faire la même chose, d'un même point de vue scientifique, on voit déjà, rien que pour la sélection des études, une certaine différence, donc une certaine subjectivité dans leur application scientifique. Et ensuite on arrive aux conclusions, en fait là encore, on voit bon, pour le sommeil ou pour l'activité cérébrale, il y a quand même une confluence, preuve limitée ou maybe affected. Pour la fertilité mâle, c'est déjà un peu plus divergent, preuve limitée chez l'animal pour les uns, peu d'évidence, qualité pauvre pour d'autres. Comportement des enfants, preuve insuffisante pour les uns, faible évidence pour les autres. Donc même dans les conclusions, après évaluation a priori des mêmes études, les deux comités scientifiques arrivent à des conclusions en partie contradictoires. Si je parle d'un comportement des enfants avec pour l'ANSES une preuve insuffisante, il faut dire quand même qu'ils ont énuméré des études qui ont quand même montré un effet double, voire triple, des effets comportement des enfants, qu'ils ont énuméré néanmoins, qui n'ont pas trop influencé leur conclusion. Donc même dans les comités, ça ne retrace pas toujours les études, les résultats des études évaluées. Et puis il y a tout un tas d'études qui, pour une raison plus ou moins obscurs, n'ont pas trouvé, n'ont pas été retenus ou considérés, comme l'étude Hardell qui est sortie en 2012 et qui montre quand même avec des effets de personnes assez élevés, on parle de 1200 tumeurs cérébrales contre 2400 contrôles, avec quand même pour le gliome, donc cette tumeur, une corrélation d'un facteur 3 voire 4. Donc 300 voire 400% de développer une tumeur dans la même partie du cerveau où on tient normalement le GSM. C'est une étude qui n'a pas été retenue, pourtant les effectifs sont grands, pourtant statistiquement significatifs. Et on sait pourquoi toutes les études n'ont pas été retenues. Donc pour en revenir à la conclusion du point de vue scientifique, pour l'instant, au niveau Wi-Fi et santé, on n'en sait pas grand-chose. Si on regarde le travail sur terrain que nous, par exemple, en tant que ministère de la Santé, on fait, donc on est appelé, que ce soit dans les habitations, voire les bureaux, lorsqu'il y a des problèmes de santé. Et à partir de là, on va faire des investigations, des analyses de la qualité de l'air intérieur. Ça peut être des chimiques, ça peut être des moisissures, ça peut être des champs électromagnétiques, basse ou haute fréquence. Et on voit quand même qu'avec une exposition croissante aux hautes fréquences, on a certains symptômes qui apparaissent plus souvent, notamment des troubles respiratoires, notamment aussi l'acouphène, donc le sifflement de l'oreille. Ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, dans ces cas, ce n'est pas seulement une exposition monofactorielle, seulement à la haute fréquence, mais très souvent, il y a d'autres effets qui viennent s'accumuler. Dans tous les acouphènes qu'on a retrouvés, en fait, on retrouve des amalgames dentaires, donc des métaux lourds dont on sait pertinemment qu'ils réagissent par rapport à des champs électromagnétiques, qui se retrouvent du côté de la bouche où se développe l'acouphène. Donc, si on part de l'hypothèse que les métaux lourds, tels que le mercure ou d'autres, vont être activés ou vont être, il y a une interférence avec les champs électromagnétiques, il y aura un dégagement de métaux lourds qui vont pouvoir se nicher sur les gaines de myéline riches en soufre des nerfs du conduit auditif. Maintenant, est-ce que c'est une conséquence de l'exposition à haute fréquence ou une exposition chimique? En fait, c'est les deux qui jouent un rôle. Et ça, aucune étude scientifique pour l'instant ne prend en compte ces facteurs multifactoriels. Ce qui est bien sûr très très compliqué et complexe à réaliser au niveau d'une étude scientifique, mais ce qui résulte quand même être un peu la pratique. Donc pour en arriver de la science à la pratique, à qui faire confiance, il y a des normes, il y a des valeurs d'orientation. En fait, elles sont très divergentes. Il y a les normes légales, qui sont les valeurs d'ICNIRP, qui est une association privée, une ONG, ou une NGO, qui prend en compte uniquement les effets thermiques. Lorsqu'il y a donc échauffement du tissu, et c'est là que se mettent toutes les valeurs légales actuellement en vigueur. C'est-à-dire toute antenne, tout appareil téléphonique, toute tablette, etc., doit garantir ces normes et doit donc éviter un échauffement du tissu biologique. Les effets non thermiques ou athermiques ne sont pas pris en compte. Parce que là, l'incertitude est trop grande. Ce qui fait quand même que pas mal de pays européens ou régions européennes ont adopté des valeurs d'orientation beaucoup plus sévères, qui sont 10 voire même plus fois inférieures, justement pour contrecarrer un peu cette incertitude scientifique qui est là et qui va persister encore un bon bout de temps. Sur ces effets non thermiques, ils sont reconnus. Je cite ici une conférence internationale scientifique organisée par le comité scientifique ici à Bruxelles en novembre 2011, où ils ont donc clairement, c'est l'université de Zurich, clairement mis en évidence que l'électroencéphalogramme est perturbé, non seulement pendant le sommeil, mais aussi en phase d'éveil, que la vitesse du sang à travers le cerveau est accéléré, mais qu'en revanche, le métabolisme glucidique, donc la dégradation du sucre au niveau du cerveau, est perturbée, voire ralentie. Ce sont des effets qui sont non thermiques. Dans quelle mesure est-ce que ces effets rendent malade ou pas? En tout cas, des effets biologiques dans le domaine non thermique ont bien lieu. Une autre grande étude ou méta-étude qui a été faite par un groupe de scientifiques indépendants, Bioinitiative, en 2007, et ils ont répété en 2012. Ils ont fait en fait une évaluation de quelques 2000 études. Et là encore, les recommandations qui sortent, qui sont de 0,6 volts par mètre, sont beaucoup, beaucoup plus sévères que les valeurs ICNIRP concernant les effets thermiques seulement. Pour en conclure, je voudrais venir lessons learned from the past, donc les cas de figure qu'on a eu où effectivement on a attendu d'avoir des preuves scientifiques et où l'attente de ces preuves scientifiques qui mettent généralement du temps à venir n'ont pas su nous protéger devant des effets négatifs. Vous connaissez l'exemple de l'amiante, où autour de 1900, on a eu les premières alertes scientifiques d'un risque. N'empêche qu'il a fallu 100 années pour interdire l'amiante. Et encore, on parle encore, on a toujours l'interdiction de l'amiante. La même chose pour la radioactivité, où on remonte au 19e siècle pour connaître les premiers effets, les premiers cas de fatalité. Il a fallu plus de 60 ans pour interdire ou réduire l'exposition à la radioactivité. Et des exemples comme ça, il y en a tout un tas que je ne vais pas énumérer, mais il faudra avoir une approche de garantir qu'on va avec les hautes fréquences et notamment le Wi-Fi, ne pas retomber dans le même cas de figure qu'on a déjà eu à maintes reprises. C'est pour ça qu'il y a un effet de précaution qui a été retenu par l'UNESCO. Cet effet de précaution se base sur trois piliers en fait. C'est une recherche systématique des surprises, notamment ce qui concerne les effets à long terme. Et aujourd'hui, on est, je répète, incapable de prévoir des effets à long terme. Donc, ce que les Anglais appellent thinking the unthinkable. Une réponse aux premiers indices, les early warnings, c'est pas attendre d'avoir une certitude scientifique absolue, mais pouvoir réagir dès les premières indications. Et troisièmement, un focus sur la plausibilité du risque plutôt que sur des évidences scientifiques dures. Première étude par le gouvernement britannique sur les hautes fréquences, qui s'appelle le Stewart Report. Là déjà, la conclusion sur la téléphonie mobile était qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques pour des effets biologiques à des puissances inférieures aux limites légales, mais qu'il n'était pas possible d'exclure des effets de santé négatifs, surtout à long terme, avec des valeurs qui respectent les valeurs limites légales. Et ces incertitudes et manques de connaissances sont suffisants pour justifier une approche de précaution. Donc, ça fait 15 ans que ça a été émis. Même conclusion pour le rapport du CIRC, qui est le Comité international du risque de la recherche en cancérologie, où effectivement le directeur, il a en 2011, alors qu'ils ont classé les hautes fréquences comme potentiellement cancérigènes, il a parlé quand même d'un effet à long terme qu'on ne pouvait pas prévoir, qu'il fallait des études supplémentaires et qu'il fallait dès lors appliquer un risque de précaution. D'autres agences, comme l'Agence européenne de l'environnement, comme le Conseil de l'Europe en 2011, comme la coordinatrice de cette grande étude Interphone ou encore l'ISEMS, ils ont tous adopté ou ils ont tous plaidé pour un principe de précaution en attendant d'avoir une certitude scientifique. Pour terminer, un exemple où ce que nous faisons au Luxembourg, ou comment le ministère luxembourgeois, le ministère de la Santé luxembourgeois, affronte cette problématique en pratique, sur le terrain, avec notre travail de tous les jours. J'aimerais citer un exemple d'un lycée où effectivement l'administration des bâtiments publics, avec la direction, nous a demandé, il fallait installer un système Wi-Fi. Si vous n'avez pas un système fonctionnel Wi-Fi dans une adolescent, donc on parlait d'un lycée, vous allez certainement aujourd'hui, il ne faut pas dire les enfants, les adolescents, donc il fallait avoir un système fonctionnel tout en minimisant quand même ou réduisant au maximum l'exposition des élèves et des enseignants. Merci. Donc en noir, vous voyez les exigences avec lesquelles nous avons confronté l'opérateur, c'est-à-dire favoriser des systèmes intelligents, c'est-à-dire des antennes qui vont réduire elles-mêmes leur émission lorsqu'il y a pas en fonction des besoins. Entre les access points, donc les antennes que vous voyez dans les couloirs et la distribution, on ne va pas partir sur un système sans fil, mais au contraire relié par fil. Favoriser des emplacements stratégiques et vérifier. Tout ça, je vais vous montrer dans une petite animation. Donc, en fait, la réalisation. Donc, au départ, on a confronté l'opérateur. Ensemble, on a cherché des solutions qui étaient techniquement et économiquement valables. Et ensuite, on est parti à la réalisation. Premier point, entre la centrale, ce que vous voyez en jaune, et les access points, les antennes. On a multiplié les antennes au lieu d'avoir que quelques antennes. On les a multipliées. Vous verrez tout de suite pourquoi. Deuxième point, on les a reliées via fil à la centrale. Donc, avec ça, on arrive déjà à réduire considérablement les émissions. Et ensuite, les antennes sont intelligentes, c'est-à-dire elles ont deux modes. Le mode en vert ou encore en bleu. En vert, ça veut dire que l'antenne est quasiment éteinte, donc elle va réduire son émission. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de user, pas de consommateur en lice. Par contre, si un user se met à communiquer, en l'occurrence le laptop ici, l'antenne la plus proche, elle va switcher et elle va répondre. C'est-à-dire que l'antenne va uniquement commencer à émettre lorsqu'il y a effectivement une communication. Et ensuite, c'est toujours l'antenne la plus proche du laptop ou du user qui va répondre. Ce qui fait que la distance entre les deux, le user et l'access point, est réduite, ce qui permet de réduire aussi le volume ou l'intensité des deux antennes. Donc, elles ne vont pas émettre plus intensément que ce qu'il faut. En plus, si en tant que smartphone, je bouge, je me déplace, c'est pas celle-là, mais c'est l'antenne la plus proche qui va reprendre. Donc, je reste toujours, et c'est pour ça qu'il y a une multiplication du nombre d'antennes ou d'access points, pour vraiment faire en sorte que la distance sera toujours minimale. Au niveau de l'installation, ce n'est pas quelque chose qui coûte beaucoup plus cher qu'une installation classique. En ce qui concerne les émissions, vous voyez les deux premières barres sur le diagramme qui sont mesurées directement sous l'antenne. Par contre, dans les salles de classe, les antennes étaient installées au niveau du couloir. Au niveau des salles de classe, vous voyez les deux barres à la droite et vous voyez qu'on arrive à garantir même les valeurs d'orientation les plus strictes, les plus sévères à l'image de bioinitiative, tout en gardant un système parfaitement fonctionnel. Cette application, vous trouvez j'ai amené quelques plaquettes où ça a été décrit, ont reçu pour cette contribution un prix en mars cette année à Lausanne par l'Association européenne pour la promotion de la santé. On a refait la même chose, ça a été repris par la suite dans pas mal de firmes au Luxembourg. Et si on parle de firmes au Luxembourg, j'ai bien sûr ramené l'exemple d'une grande banque où on a effectivement fait des mesurages de contrôle. Ils ont installé un système de Wi-Fi intelligent dans toutes leurs filiales. Ça fait une quarantaine de filiales à travers le pays. En tout, pour l'instant, on peut dire que suite à l'exemple du lycée, il y a 2 ans, on a pu faire profiter plus de 8000 salariés à travers différentes firmes au Luxembourg d'un tel système. Et j'aimerais conclure pour terminer. Je crois que... Non, vous l'avez. Ok, parfait. Donc, mes conclusions, c'est qu'aujourd'hui, on est à une incertitude quant au risque sanitaire. Il y a très peu d'études, si je parle du Wi-Fi, il y a vraiment très, très peu d'études sur le Wi-Fi qui ont été faites. Le Wi-Fi est une technologie récente et dynamique qui n'a pas arrêté de permuter. Les effets à long terme, on n'en sait strictement rien. Les effets cumulatifs par rapport aux fréquences, mais aussi par rapport aux applications. Les résultats scientifiques dont on dispose actuellement sont en partie contradictoires, sans parler des synergismes, donc des interactions entre les hautes fréquences et d'autres facteurs, comme les métaux lourds, comme éventuellement des substances chimiques qui pourraient, il y a des études qui montrent que la barrière hémato-encéphalique, donc entre le cerveau et le sang, deviendrait, d'après ces études, plus perméable, ce qui permettrait le passage de substances chimiques qui sont des substances qui attaquent le système nerveux, qui pourraient dès lors passer plus facilement à l'intérieur du cerveau et devenir donc plus nocives. Ces énergismes sont très très peu, voire pas du tout étudiés pour l'instant. Et donc, il faut conclure que la science, du moins aujourd'hui, et certainement aussi demain et après-demain, n'est peut-être pas le seul moyen adéquat pour juger définitivement du danger ou de l'absence du danger pour la santé des hautes fréquences, notamment du Wi-Fi. Il faudrait peut-être plus tenir compte du travail sur le terrain, des médecins spécialisés, de l'apparition de différentes pathologies à l'image dans le temps. Et en attendant d'avoir des données plus persistantes, appliquer un principe de précaution, d'autant comme l'exemple que je viens de vous montrer montre dans le cas du Wi-Fi que c'est parfaitement faisable, réalisable, sans engendrer ni le facteur économique ni le facteur fonctionnel. Il faudrait tenir compte des populations sensibles. Si on va dans une crèche, on a des populations sensibles plutôt que de la population moyenne. Et il nous faudrait certainement à l'avenir une transparence dans la forme. Et j'aimerais terminer avec la conclusion du comité scientifique, et je lis. En dépit de certains points d'interrogation concernant les effets de santé potentiels sur l'homme et sur le travailleur, donc ils avouent qu'il reste des points d'interrogation, ou ils confirment qu'il reste des points d'interrogation sur la santé. On observe néanmoins un développement rapide et constant de nouvelles techniques, technologies et pratiques de travail qui mettent en évidence toutes ces applications à haute fréquence, ce qui veut dire qu'on ne va pas retarder le progrès technologique. En dépit donc des problèmes de santé, il faudra donc essayer de, sans trop freiner le processus technologique, tenir un maximum de la santé, ce qui nous ramène au principe de précaution. Je crois que si on joue cette carte, on pourra continuer à bénéficier des nouvelles technologies tout en minimisant les risques de santé potentiels ou démontrés jusqu'à présent. Pour votre attention.
Je pense que vous avez tous pu apprécier intéressant.
Merci. Personnel. Alors, en ce qui concerne l'installation de dispositifs à haute fréquence et les relais GSM qui sont installés dans certains bâtiments, il y a une autre catégorie de champs électromagnétiques dont on n'a pas du tout parlé au sujet-là. Donc, voilà pour les procédures telles qu'elles sont mises en œuvre. Donc, voilà au niveau des différentes procédures, voilà au niveau des contrôles, rien du tout. Et on a eu une anecdote, j'en viens maintenant à quelques anecdotes plus précises. Le couloir, juste en face de mon bureau, c'est ça, c'est pas possible, c'est l'explication de mon mal de...
Alors pour la première question, où mesurer, c'est relativement complexe et dangereux de vous donner une réponse à l'abstrait comme ça. Ça dépend de plusieurs facteurs, où sont placés, trouvent les gens. Donc, quels sont les points d'exposition? Ça ne sert à rien de faire des mesurages dans un couloir ou dans un parking où les gens ne font que passer. Choisir les endroits les plus exposés, je dirais, par la distance géographiquement. Choisir les endroits de passage. Ensuite, il faut tenir compte un peu des matériaux de construction, étant donné qu'il y a des réflexions. Donc, c'est pas quelque chose de linéaire. Plus je pars de distance et plus je serai à l'abri. Mais il y aura des effets de réflexion, ce qui veut dire que même à l'intérieur d'une pièce, ça peut être très hétérogène. Mais donc, pour entrer plus dans le détail, il faudrait voir les bureaux et choisir ce genre d'exercice. Au niveau des personnes qui ont été exposées, vous voulez limiter haute fréquence ou haute fréquence et basse fréquence? C'est sûr que dans notre travail quotidien, on a régulièrement de tels cas. Maintenant, scientifiquement, cela ne veut pas pour autant dire qu'effectivement, c'était la cause. Donc là, c'est très, faut quand même être très, très vigilant. Premièrement, ce que nous faisons d'habitude, c'est ne pas nous limiter au simple mesurage des hautes fréquences, mais on fait une analyse, on essaie toujours de faire une analyse complète, chimique, mycologique, haute fréquence. Justement pour identifier la cause ou le coupable ou le présumé coupable, mais en même temps innocenter tous les autres. Si je déplace quelqu'un d'un endroit vers l'autre et que j'ai mesuré des hautes fréquences sans faire des analyses chimiques, ça peut aussi être le retardateur de flamme dans l'imprimante, ou ça peut être le traitement antimite de la moquette, qui est quelque chose de chimique, qui n'a rien à voir avec la haute fréquence. Donc, il faut quand même faire la différence. C'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, ça reste, ça existe. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut, où il faut dire, ah, c'est des gens qui sont un peu... c'est même chez tout le monde, chez des gens qui... ces effets. Donc, scientifiquement différencié, si c'était vraiment les hautes fréquences, au niveau scientifique, effectif, beaucoup plus important, maintenant dans notre travail tous les jours, quand même quotidiennement. Il faut dire qu'en termes de biologiste, j'étais au départ assez sceptique par rapport à quelque chose que j'arrive difficilement à rationaliser comme tout le monde. Bon, j'ai des appareils de mesurage qui me permettent de visualiser, mais à partir de là, jusqu'à donc très rétentif également, 14-15 ans ou même un peu plus de travail sur le terrain, je peux quand même pas nier qu'on a régulièrement de tels effets. Donc c'est pour ça que j'aimerais que j'ose pas le prendre à la légère. Et par rapport aux normes, j'ai beaucoup entendu qu'on respecte les normes. Je crois que ce qui est sorti de mes propos, c'est qu'il y a normes. Donc il y a des normes légales, il y a d'autres indications, valeurs d'orientation, et même en restant en dessous des normes, il y a quand même un champ énorme où on peut jouer dessus. Donc rester sous la norme absolue, c'est une chose, mais il y a bien des cas de figure où on peut aller beaucoup plus bas dans un principe de précaution sans pour autant porter atteinte au système. Donc en maintenant une fonction, je ne sais pas si le respect de la norme légale en vigueur est là où il faut viser. À mon avis, on peut viser beaucoup plus bas.
Des recommandations pour si on a...
J'ai vu dans votre exemple concernant le lycée que vous avez donc les émissions. Est-ce que ce cas de figure fonctionne également avec les antennes relais GSM, à savoir que plus on multiplie les antennes relais, plus on diminue leurs émissions, puisque un GSM donné peut capter plus rapidement, plus aisément, parce que, à ma connaissance, un GSM qui cherche à capter une fréquence, il émet les ondes beaucoup, beaucoup plus, donc il faut tenir compte aussi de l'appareil que possèdent les utilisateurs.
En fait, il y a deux choses à répondre. La première, c'est qu'au niveau du fonctionnement, le GSM, si j'ai deux antennes, il peut y avoir une superposition des deux antennes qui est beaucoup plus élevée que dans d'autres systèmes. Au niveau Wi-Fi, on essaiera quand même de limiter plus strict le champ d'émission d'un access point par rapport à un autre. Donc, au niveau des antennes, si les deux antennes GSM vont se superposer, ça pose moins de problèmes. Ce qui serait un argument de dire là, on n'a pas besoin de faire attention et donc une multiplication d'antennes en tant que telle n'assure pas une réduction des émissions. Cependant, si plus j'ai d'antennes, ça dépend en fait du réglage. Donc si, mon antenne GSM, je peux la régler, c'est-à-dire j'ai une puissance émettrice maximale, mais je n'ai pas besoin d'aller à fond, d'aller jusque-là. Et donc, si j'ai plus d'antennes, dans les grandes villes, par exemple, au Luxembourg, on est parti du principe d'avoir une antenne à l'extérieur ou à la sortie du village pour tout le village, qui émet donc très fortement, mais au contraire, de multiplier les antennes et de les réduire en intensité, ce qui permet d'avoir une intensité moins élevée, plus homogène, tout le monde a une petite, mais pas les uns une grande et les autres on arrive à peine à les... Donc avec une multiplication au niveau des antennes GSM, oui ça marche, mais il faudra alors avoir le réflexe de les réduire en puissance. Et très souvent il faut dire aux opérateurs, mais à ce moment vous allez réduire, parce que l'opérateur il va mettre en full power et là il est tranquille. Au niveau du téléphone mobile proprement dit, au départ, quand vous mettez votre numéro, il va émettre à pleine puissance. Et une fois qu'il a établi une connexion, il va quand même diminuer. Pour les opérateurs, c'est une histoire de ménager la consommation de courant. Donc, moins votre GSM émet fortement, plus vous pouvez aller. Ça, c'est donc la durée de la pile, c'est un argument de vente. Donc les appareils, ils sont donc faut pas l'avoir près de l'oreille quand il fait son numéro, mais attendre que la liaison soit établie. Et là, plus il est proche de l'antenne, moins il va établir. Ceci étant, dernier point au niveau de l'antenne GSM, même si l'antenne est là depuis 2 ans ou 3 ans, il se peut quand même qu'elle ait changé d'intensité. Donc pour moi, ce n'est pas l'argument l'antanier depuis 3 ans. Si au bout du temps, 5 semaines ou 6 semaines, l'opérateur a augmenté, il y aura une autre exposition. Donc là, il faut être, ce n'est pas la présence ou l'absence de l'antenne proprement dite. C'est possible, mais ce n'est pas automatique comme dans le Wi-Fi.
Vous faites une grande confusion. Le principe de précaution, ça ne veut pas dire je ne fais rien. Le principe des mesures compensatoires. Et c'est ce qu'a fait...